c'est ce désir du monde. C'est ce désir du monde qui m'hallucine. La hantise de ce qui reste à créer dans les contrées neuves comme mon ardeur. L'aube monte, éclate aux vitres et joue un instant avec les rainures du volet. C'est avant l'aube qu'il faut partir. La douceur du jour vous rattache aux choses qui ont bercé l'enfance. Avec rudesse, il faut partir. Ceindre ses reins de la ceinture d'acier dont les clous mordent la chair à la moindre défaillance. Traverser le jardin sans cueillir de fleurs. Ne pas s'attarder à la barrière qui grince. Partir avant l'heure.
Mireille Havet, journal 1927-1928. Page choisie par Béatrice Leca. Avec Louise Pastot. Quatrième épisode, tentative de départ. Au cœur de l'été 1928, Mireille Havet tire un trait sur son insouciance passée. Le temps de la jeunesse est terminé. Elle fuit Nice et sa sœur et se réfugie à Join-les-Pins avec pour seul mot d'ordre « oublier pour vivre ».
Nuit du lundi 9 au mardi 10 juillet 1928. Nice, 5 heures. Si j'avais de l'argent, ma vie, ni ma jeunesse, ni ma santé, ni même mon cœur ne seraient perdus comme ils le paraissent ou le sont peut-être réellement maintenant. Cet été, selon toute vraisemblance, j'aurais même un goût bien vif d'écrire mes livres, de reprendre, et à Paris, il est rarement trop tard pour une femme qui eut un début et des amis brillants, un nom dont beaucoup se souviennent encore et de l'énergie, de reprendre ma place, celle dont on attend parler peut-être trop à l'avance et que, pour cela, comme les prodigues dilapidant la fortune à venir, hypothéquant l'héritage non hérité, je n'ai pas eu, oh, par ma faute unique. Je sais bien. Si je reste ratée, et mieux ratée et suicidée, je ne l'aurais été qu'à cause de l'amour, car à part lui, j'avais presque tout. Sauf la fortune, pour réussir. Et je devais réussir si je ne m'étais pas laissée briser le cœur et berner par 3 fois identiquement. Tout recommence. Je ne le crois pas tant que cela. Mais tout commence toujours une fois, et si ce n'est pas la vie rapidement, il faudra bien pourtant que ce soit rapidement la mort pour moi. Tant qu'on est jeune, on peut tout se permettre, on le croit du moins, et sinon, quant à l'avenir, hélas, du moins sur le moment, on a raison. La jeunesse éclaire et efface, dans sa belle lumière qui vous gagne les sympathies comme le soleil qui embellit le plus ingrat village, les rides que les douleurs de son insouciance, de son insolence même, alors victorieuse mais pas pour longtemps. Pauvre crétine que j'ai été pendant 10 ans. Pauvre vieille idiote que je suis devenue maintenant, que je me reconnais ce soir, cette nuit enfin, être devenue irréparablement. Les rides, je disais, qu'elle nous prépare en dessous. En dessous. En dessous, tout fut en dessous toujours, et je mourrai au-dessous et en dessous de tout, comme je vis plus consciemment que jamais, dès cette heure-ci. C'est pourquoi je tiens à l'inscrire. À ce beau cahier vert. Ce beau cahier vert payé trop. Quel usage j'en fis, n'est-ce pas? C'est à peu près comme de ma figure et des autres dons moins visibles, mais pour cela plus sûrs et vraiment solides. Je sais que j'avais, que j'ai eu, que je pourrais presque encore avoir, si l'une ou l'autre de vous, mes amis, ne devait pas venir trop tard ou même plus, ne pas venir du tout. Car laquelle de vous trois pense à moi ce soir? Et même si, par hasard, l'une de vous y pensait, pourrait une seconde imaginer ma détresse, en comprendre les causes que vous dirigeâtes par ma faute, en comprendre aussi l'issue. Écoutez, belles amies, vous faites bien de ne pas me revoir, car l'heure de la laideur est venue, et sonnée, bien sonnée. La bouffissure et la déformation des traits, sous ce déluge de larmes que vous me fîtes verser l'une après l'autre, savamment, inhumainement, sans vous en apercevoir. Ce n'est pas honte de votre amour mort, de la parodie de la passion que vous m'avez jouée et à laquelle j'ai cru, ni des souvenirs de nos liaisons que vous auriez ce soir, mais de ma figure simplement. Et de n'avoir jamais pu embrasser un visage si bouffi, si blanc sans fard, si gris, exactement, avec les gros yeux fixes et restant brillants par l'intoxication, ma bouche qui tremble, mon émou qui a l'air cassé, et les rides de tout cela, et les plis et les sillons, et mes cheveux qui ne sont plus taillés ni soignés, et tout, tout, enfin. Ah, laissez-moi. Vous avez bien fait de prévoir et de me laisser avant cette décrépitude et ce néant total où je sombre. Mais si vous ne m'aviez pas laissé, où je ne sombrerais pas non plus, car la décrépitude que me renvoie le juste miroir aurait été reculée à des temps plus normaux et que justifie l'âge. Mon Dieu, pardonnez-moi. J'ai eu un geste horrible. Hideux. Je n'essaie pas de le racheter par ces larmes qui ont en même temps et presque aussitôt jailli de mes yeux, qui ne sont plus bons qu'à cela, pleurer, c'est tout. Mais je le pleure de tout mon cœur, horrible lui-même et bouleversé. Il me reste ma seringue et son recours passager à répéter sans fin. Dimanche matin. 16 juillet 1928. Que m'importe ce que j'ai écrit sur les autres pages de ce cahier? Que m'importe tout? Je n'écris plus et je ne vis ni n'aime. Tout me paraît bien fini de ces axillons centrales pour lesquels je me suis cru née. 28 ans. Voici ma première cigarette. Après ma première piqûre qui ne me fait plus rien jamais. À croire que c'est du plâtre pilé que je mets dans ma seringue avec l'eau distillée. Depuis 15 jours, le 1er juillet fatal où... Faute de m'être tuée, je suis quand même morte à moi-même. Sauf quand la piqûre paraît agir au bout de quelques minutes et me donner un sommeil lourd, invincible, plein de visions pénibles et de phrases inintelligibles dès que je suis éveillée et tâche de m'en souvenir. Pour ne pas sombrer dans cette léthargie atroce, Je tâche, depuis 2 jours, de m'étendre le moins possible et de m'accrocher aux enfants dont j'ai entrepris les études de vacances. La chaleur ne diminue pas, mais augmente. Il reste la même la nuit que le jour. On n'a jamais de repos et on ne peut jamais plus respirer. Partir me paraît une expression de haute et ironique fantaisie, impossible à réaliser. Je n'écris et ne réponds même plus aux amis qui pourraient peut-être m'y aider. C'est un été atroce et je ne veux pas songer au passé, mais certes, je ne le prévoyais pas tel. Plus atroce que l'année dernière où j'ai été cruellement malade dans cette Bretagne sauvage et sans secours humain, mais où j'avais du moins un amour humain aussi. Ma solitude, cette année, dépasse toute espérance, certes. Ma solitude dans cette chaleur. Mon Dieu, faites de moi ce que vous jugerez bon. Nuit du lundi 30 au mardi 31 juillet 1928, Nice. Être à peu près mise à la porte, enfin, en demeure formelle et agressive, car si elle n'était que formelle, on la confondrait avec celle des petits fournisseurs mal éduqués à la confiance par une clientèle à leur taille. De partir de chez ma sœur, par elle-même. Voilà une situation nouvelle et qui manquait. À cause de cela, j'aurais dû la prévoir en particulier. À ma collection des injures par manque, trahison, dissimulation, faux témoignages, diffamation, sournoiserie, mensonge, accusation sans fondement ni preuve, condamnation idem, fuite annulant l'explication, etc., 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 et j'en passe. Donc me voici acculée au départ. Sans un franc, et ne le prévoyant ni si brusque, ni surtout dans ces conditions-là. Rien n'arrange rien que l'argent. C'est parce que je suis en retard d'un mois et demi pour le règlement de ma soi-disant pension que ma propre sœur, acariâtre soudain et pleine de reproches et de sous-entendus blessants, me cherche noise depuis 4 jours et finalement me chasse de chez elle, m'accusant de sa propre pauvreté et me rendant subitement l'unique responsable du désarroi de sa vie ratée par son seul caractère qui a fait le vide autour d'elle, manifestement, pourtant, depuis que, comme moi, elle a perdu maman. En se séparant de moi aussi, ne perdra-t-elle pas beaucoup plus que moi, qui l'ai déjà oublié de si nombreuses années? De cela, je me repentais et proposais de le réparer, dès lors, à l'avenir. Tant pis, qu'importe tout cela. De son mauvais caractère et de son étroitesse d'esprit, je lui serais même en moi reconnaissante si le résultat de tous ces maux a oublié et que je sois à Paris dans 2 jours. Libre de toute famille et seule, décidément, comme je dois l'être, sans plus essayer de me raccrocher à des liens qui n'existent, exactement comme tous les liens que tissés de billets de 1000 francs. Je dirais adieu la vie de famille, après avoir dit adieu à l'amour. Mais pas encore bonjour, peut-être, à la vraie et pure amitié. Et à la foi profonde, dont aucun visage dès lors ne peut vous détourner. Thank you. Juin les Pins. Nuit du dimanche 5 au lundi 6 août 1928. L'aventure y commence, mais sans doute y finira-t-elle même dès demain. Je le crains. Faute d'argent pour en alimenter ou construire du moins les premiers plans, qui sont mon arrivée ce soir ici par un train vaguement omnibus en gare de Juan à 10h du soir. On me porte ma valise au bar de la potinière où, un peu inquiète, avec 25 francs sur moi pour toute fortune, je m'assieds et enquête sur les camarades à la redresse des environs, puis les hôtels, hormis le Provençal, où je serais allée tout droit 2 ans plus tôt. Et peut-être est-ce il y a 2 ans que j'aurais eu raison, mais la plus belle aventurière du monde se tasse au gré des échecs et de certaines bourrasques. Donc, premier hôtel, pas de chambre. Second non plus. À la potinière où me revoici, je suis racolée par une vieille figure de connaissance, plutôt qu'une vieille connaissance de figure. Un dessinateur de plages et boîtes de nuit, juif polonais certainement, nommé Vague ou quelque chose de ce genre. Et une amie de celui-ci, petite méridionale grillée d'Argentine, qui ressemble énormément au cours de la soirée à Spinelli dans Le Dompteur. On boit, on parle. La petite méridionale cosmopolite m'emmène à son hôtel, celui-ci genre bordel étonnant, où de curieux gigolos italiens réclament à haute et zézéante voix de l'argent à des comtesses muettes et invisibles derrière leurs portes closes. La tenancière me fait remarquer, pour parer à l'incident, combien de ce fait l'hôtel est bien habité. La chambre que l'on m'y octroie pour 40 francs la nuit est propre, carrelée de noir et de blanc, clair et gai, et je m'y installe. Échange de costumes pour faire soir et visiter les boîtes de nuit que je connais déjà. Et ainsi le temps passe, dans le clair de lune et les jazz de la Pinède, jusqu'à maintenant. Je tombe de fatigue et peut-être de fièvre, et je remets le reste de ma description à demain. Bonsoir, Juan les Pins, curieuse ville de Métec, Folido, et fausse Italie. Était-il de mon sort de venir échouer ici? Mardi soir, c'est août 1928, Juan les Pins, hôtel du casino. Ce soir, je suis bien mal à l'aise, dans une solitude grotesque, en cela que, si j'y suis, c'est bien de ma faute et le fait de mon unique et la plus personnelle volonté. Un projet à moi que j'ai réalisé en venant ici. Un projet tout à fait inexplicable et sans queue ni tête, et un des seuls, certainement, et à cause de cela, sûrement, que j'ai réalisé depuis 6 mois, ce qui est vraiment assez, assez énervant et accroît sa sottise et son inutilité absolue. Donc, je suis mal à mon aise et le perçois soudain totalement et sans doute aussi exagérément. Cette chambre d'hôtel bordel, il ne se cache guère de cette double fonction qui est absolument visible et indiscutable. Où je n'avais fait que dormir, me remaquiller et m'habiller hâtivement jusqu'à présent, entre 2 cocktails et des sorties aussi stupides et sans agrément ni la moindre logique que mes rentrées et que ma venue et toute ma grotesque installation solitaire ici, dans le désert que met cette foule bruyante, inconnue, que je ne peux souhaiter connaître, de mauvais aloi et de mauvaise qualité, en cela que parfaite Kaamelott, comme la brusque création et célébrité de cette plage, elle-même saccagée en 3 ans par un snobisme à bon marché quant à sa source, mais dont sont les résultats confluents et affluents très chers, de cette foule donc qui n'a, dans tous ses faits et gestes, qu'une seule idée et un seul but, copier le Lido et Capri. Ce qui fait de ce pays la cage aux singes au lieu de rester un pays et une plage d'hommes ordinaires. Enfin, tout cela, ce soir, me devient, m'apparaît soudain, insupportable. En plus, et en effet, il y a des moustiques et je les sens. Les voix et la rumeur publique que j'y entends sont désagréables, beaucoup trop proches de ma propre et mitoyenne terrasse pour que je puisse même lire. Trois heures du matin, même nuit. Cette vie. Cette vie. C'est pire que d'habiter Montmartre, petite grue, en arrivant de province pour se lancer, j'imagine. Quatre soirs identiques à peu de choses ou de gens près, chez Maxime, et aux faux et minuscules pauvres pré-catelans avant, etc. Champagne, alcool, cigarettes, tristesse. Nostalgie et déchirure par instants atroces à cause des refrains du jazz. Les mêmes tantes aimées et chantées par Robbie cet hiver, comme cette chanson d'Espagne de tout à l'heure, qui m'a fait crisper les mâchoires et réellement bouillonner mon sang jusqu'à la suffocation dans toutes les artères et veines de mon pauvre corps, qui se souvenait trop de ma Robbie bien-aimée et inimaginablement perdue. Corps et âme. Depuis 4 mois, dont j'ignore tout et dont je savais tout pourtant, alors que tant de dimanches de cet automne et hiver, le gramophone sur notre lit de ma vieille et chère rue Rénoir, abandonné par sa faute et de nous deux depuis Pâques, après nous être inlassablement aimés et prises jusqu'aux extrêmes, inautorisés de l'âme et des sens depuis le samedi soir, nous nous reposions l'une contre l'autre, encore emmêlées et confondues, mais trop épuisées et satisfaites pour songer à refaire activement et de suite l'amour, notre amour, auquel j'ai cru. En écoutant les nouveaux disques achetés en revenant du bar Napoléon au passage des Champs-Élysées. Nouveau rendez-vous remplaçant le scribe de l'été passé, que nous dictait le voisinage de Fanny Ward au lieu de la place Vendôme et que... La nuit revenant vite en hiver et nous rapportant l'amour, ou du moins son mirage. Robbie, suivant les paroles de sa patrie, retrouvée au rythme du gramophone, chantait près de moi en caressant et unissant souvent ses lèvres souriantes aux miennes, qui la guettaient passionnément. Ah, au nom du ciel, n'évoquons pas ce passé mort et tué par le mensonge et la basse trahison. Je suis morte moi-même, c'est entendu. Si j'étais vivante, si j'étais Mireille Havet, auteur et écrivain de Carnaval et de Jeunesse perdue, serais-je ici à traîner depuis 4 nuits à la suite de n'importe qui, du casino au catelan ridicule et au Maxime un peu plus habituel, et ressemblant à tant d'autres endroits où j'ai été avec mes amours et mon amour de cet instant-là, que c'est pour cela que je ne le supporte pas. Hélas, que le sommeil artificiellement cherché et parfois conquis nous ramène complètement à la mort et oublions tout et toutes, et elle surtout, puisque ma vie perdue est désormais d'oublier pour vivre en apparence humaine, du moins.
C'était Mireille Havet, journal 1927-1928. Page choisie par Béatrice Leca. 4e épisode. Avec Louise Pasteau. Prise de son, montage et mixage, Jean-Richard Dufour, Déborah Dagobert. Assistant, Lélio Ploton. Réalisation, Michel Sidoroff. Le journal de Mireille Havet est publié aux éditions Claire Paulhan.